Coucou, c'est GC et vous écoutez toute première fois.
Depuis plusieurs mois, GC présente son premier seul en scène message personnel au Théâtre du Marais. Pendant un peu plus d'une heure, l'humoriste de 30 ans va multiplier chutes et anecdotes inattendues, tout en se racontant avec humour et tendresse. Son enfance à la campagne, le harcèlement scolaire qu'il a subi, ou le fait qu'il est le fruit d'un adultère. Son homosexualité, dont il ne se cache absolument pas, est l'un des fils rouges de ce spectacle, ce qui distingue Jesse d'autres comiques moins à l'aise pour aborder aussi frontalement la leur. Jesse est le premier invité d'une série d'épisodes spéciaux de toute première fois, avec des artistes LGBT, pour le mois des fiertés, et pour lequel plusieurs enregistrements seront donc diffusés en juin, et non pas qu'un seul comme habituellement. Toute première fois, saison 3, épisode 10, Jesse. Donc Jesse, tu as 30 ans et tu présentes... Alors j'ai 30 ans, bientôt 31 ans, je crois en juillet.
On peut juste dire 30 ans.
On peut juste dire 30 ans.
31, même si c'est la suite logique des choses.
tu présentes actuellement ton premier spectacle, donc ton premier seul en scène, message personnel à Paris.
Oui.
Mais avant ça, tu étais comédien. On a pu te voir notamment dans la série, alors pour ceux qui s'en souviennent, Versailles sur Canal+.
Oui.
Et je voulais savoir comment du coup... Tout d'abord, tu étais venu dans le milieu de la comédie, du cinéma et des séries.
Ouais.
Comment tu étais devenu comédien? Comment c'était venu cette envie?
En fait, ça m'est venu quand j'ai fait un bac international au lycée à Dijon. Ensuite, j'étais parti pour faire Hippocagne et Sciences Po à Lyon.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop dur pour moi. J'ai pas du tout tenu le rythme, donc j'ai arrêté avant d'être diplômé de quoi que ce soit. Et je suis parti à Paris. Et avec l'idée en tête de faire du théâtre.
D'accord.
J'avais toujours fait du théâtre, j'ai une belle-mère qui a toujours fait du théâtre, je lui faisais répéter ses textes quand j'étais petit. Et je suis arrivé à Paris avec. À 19 ans. Et je me suis inscrit à Paris 3 en études théâtrales. C'était la condition pour que mes parents m'aident financièrement. Et j'ai commencé les cours Florent, j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais que c'était très cher et que franchement on apprenait rien du tout. C'était horrible, les classes étaient surbookées avec des profs franchement pas terribles. Et du coup, sur les murs de cours Florent, il y avait une petite annonce pour Silhouette.
Okay.
Dans le film Les Infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
Bien
c'est un
sûr,
film
ouais.
D'Éric Lartigot ou de Frédéric Berthe, j'ai oublié. Oh, c'est pas grave. en fait, c'est plusieurs sketchs qui étaient réalisés par plusieurs réalisateurs, je crois. Et du coup, c'était ma première expérience de plateau. J'ai trouvé
D'accord.
ça génial. Et je me souviens qu'il y avait une actrice sur le plateau. Et je lui ai demandé, mais elle avait l'air d'avoir un gros rôle. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et je lui ai demandé, comment t'as fait pour avoir ce rôle? Je connaissais rien, je venais de Dijon, de ma campagne, de ma ferme.
T'étais toujours
Paris 3. Ouais. Et elle me regardait, je m'en souviendrai tout le temps, hyper hautain, et franchement avec un regard de dédain, en disant c'est mon agent qui a géré. Et j'étais là.
Ah ouais,
et
d'accord.
Là, en fait, dans ma tête, ça a tilté, je me suis dit, ok, faut que j'ai un agent. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Et tu te souviens qui c'est cette actrice?
Non,
ou tu veux pas dire son nom?
Non, je me souviens vraiment pas du tout. Non, c'était pas du tout quelqu'un de connu.
D'accord.
C'était une actrice juste voilà, qui devait avoir peut-être 3-4 jours sur le film, ce qui était toujours beaucoup plus que moi, qui avait une journée de figuration. Et je me souviens de ce truc de faut avoir un agent. Et c'est comme ça que je me suis dit.
Et du coup, tu as démarché un agent et ensuite tu as commencé des auditions.
J'ai passé des castings, j'ai décroché des petits courts-métrages, des petits téléfilms. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu le petit rôle dans Versailles, ce qui m'a donné une belle visibilité. Et ensuite, j'ai fait la pièce avec Francis Huster et Régis Laspalès, une grosse pièce de théâtre populaire incroyable, c'était super. Pendant 2 ans, ça s'appelait À droite à gauche.
D'accord.
C'était de Laurent Ruquier, qu'on a joué au Théâtre des Variétés. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 projets avec Cédric Clapiche, un biopic sur Molière et le Covid. Et j'ai écrit mon spectacle pendant le Covid.
Ah ouais, justement, voilà. C'est ça que je voulais savoir, c'est que souvent, les comédiens, enfin les stand-uppers, les personnes de ce milieu-là,
ouais.
vont vers le cinéma ou les séries. Et l'inverse,
ouais.
c'est un peu, c'est pas souvent ouais. si vrai. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce chemin inverse et...
Ouais, peut-être que j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais gagné du temps, parce que ça m'a quand même pris 10 ans avant de m'y mettre, mais en fait je crois que fondamentalement ce qui m'a poussé c'est de, pendant le Covid je crois qu'on s'est tous un peu retrouvés auto-centrés à dire tiens qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu restais à Paris, tu pouvais rien faire, à part écrire ou enfin faire des choses de chez toi, et donc il y en a qui ont fait des vidéos, et moi j'ai écrit, et je me suis dit ah tiens, peut-être que ce serait pas mal de le jouer. Au début, j'écrivais juste comme ça, peut-être pour en faire un livre, je sais pas.
De ta vie,
et en tout cas, c'était pas très drôle. Et ensuite, j'ai rencontré Marion Mésadorian, qui est ma metteuse en scène.
D'accord.
Et qui, elle, fait de l'humour. Et c'est avec elle qu'on a vraiment pris le parti de l'humour. On a rajouté des vannes. Et de plus en plus, j'ai été à l'aise avec ce truc, à me dire ok, c'est bon, je vais faire rire.
Okay.
Mais c'est venu après.
Donc, c'est pendant le premier confinement, quoi. Tu t'es lâché.
En 2022, ouais. 2021.
Ouais. Et justement, dans ce scène, tu parles beaucoup de toi, c'est très personnel. Tu me disais donc au début que c'était une envie de toi pendant le confinement de faire ça.
Un peu d'introspection.
C'est ça, tu parles de ton enfance à la campagne à Dijon, tu parles de tes parents, de ton père qui n'est pas ton père biologique, mais qui est quand même ton père, de ton homosexualité, de tout ça. Est-ce que c'était dur, justement, je me disais, d'écrire sur toutes ces choses-là personnelles, et donc l'humour est venu ensuite, de rajouter ensuite des blagues dessus. Comment ça s'est fait?
Alors, quand je raconte par exemple le fait que j'ai un géniteur, moi c'est une histoire qui est vraiment digérée parce que je l'ai toujours su, mes parents m'ont jamais caché. Donc l'écrire n'a pas été quelque chose où je suis allé chercher dans mes traumas. Ça a été plus dur quand j'ai parlé du harcèlement scolaire que j'ai vécu, où là j'ai dû me replonger vraiment dans des moments difficiles que j'ai digérés aujourd'hui, mais qui sont toujours compliqués de venir gratter. Et du coup, je me suis dit, déroule ta vie, elle n'est pas forcément intéressante, on va essayer d'en faire quelque chose d'intéressant quand même pour que les gens en viennent et payent 20 balles. Au début, c'était plutôt comme une sorte d'introspection et de coucher noir sur blanc, tiens, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce qui fait un peu sa spécificité, mais aussi qu'est-ce qui pourrait toucher les gens dans une forme d'universalité. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'interroger ce que c'était la famille, parce que moi j'ai vachement vécu toute cette période de manif pour tous, de grands débats sur un papa, une maman, qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que la filiation. Et en fait, ça m'a vachement interrogé sur mon histoire. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas ce parcours traditionnel de la famille. Et pourtant, ça va. Enfin, ça ne va pas partout. Mais j'ai l'impression que ça va, que je marche assez droit. Et du coup, j'ai eu envie de me porter un espèce de message d'espoir et de dire, non, attendez, il y a plein d'autres façons de vivre. Il y a plein d'autres façons de grandir. Moi, je vais vous apporter mon petit témoignage. Peut-être que ça vous parlera. Et on pourra, commencer à ériger un peu un espèce de rempart contre ces idées vraiment moyenâgeuses, quoi.
Et pour un peu expliquer aux personnes qui n'auraient pas encore vu ton spectacle, est-ce que tu peux parler un peu de ton histoire, justement, de ce que tu dis, qui tu appelles ton géniteur, ton père, raconter un peu cette histoire.
Ouais, bien sûr. Alors moi, donc, j'ai une mère et un père qui m'ont élevé, qui étaient en couple ensemble depuis très longtemps. Ma mère a eu une aventure extra-conjugale avec un homme, et donc elle est tombée follement amoureuse et elle est tombée enceinte de cette personne. Elle l'a pas dit tout de suite à mon père. Et alors ça, c'est à la naissance quasiment, un peu avant ou un peu après, je sais pas exactement. Elle a dit à mon père, cet enfant n'est pas de toi. Et mon père a décidé de me reconnaître et de m'élever quand même comme son propre fils. Et ma mère n'a plus revu cette personne. Enfin, c'était une histoire de 2-3 mois, quoi.
Ouais.
Cette idylle. Et lui-même avait une femme, des enfants et tout. Et donc c'est comme ça que je suis né. Donc c'est pas mon père qui a mis la petite graine. C'est un amant de ma mère.
Ça,
ouais, c'est comme ça que ma mère disait quand j'étais petit pour que je comprenne.
Et ensuite tes parents sont séparés et t'es...
Ouais, alors je crois que ça a mis quand même du plomb dans l'aile au couple. Ce que je peux largement comprendre. Et du coup mon père a quitté ma mère autour de 6 mois. Et il s'est tout de suite remis avec quelqu'un qui s'appelle Maryse et qui est ma belle-mère et qui est comme une seconde mère. J'ai beaucoup de parents impliqués dans mon éducation. Si des personnes sont intéressées pour en emprunter, je les loue.
Et justement, oui, ils interviennent pas mal dans le spectacle, dans l'écriture. Ouais. Tu les fais vivre à travers des mots qui t'ont raconté, des histoires qui t'ont raconté, ou des appels aussi, on les entend de temps en temps, je crois, dans le spectacle.
Par des messages vocaux.
Ouais.
Et il finit par des messages vocaux. Les personnes qui ont fait mon éducation me laissent un message vocal au tout début du spectacle, avant que le spectacle commence. Donc le public l'écoute. Et à la fin, c'est les mêmes personnes 10 ans après. Donc avec l'évolution de la vie, qui me laisse un message vocal.
écrit tout ça pendant le confinement, tu as trouvé ta metteuse en scène.
Oui.
Et là, comment ça s'est fait le passage justement à la scène? Est-ce que tu es tout de suite passé donc, du coup, au Théâtre du Marais où tu
non.
joues ton spectacle actuellement?
Ouais.
Est-ce que tu as écumé les comédie clubs? Est-ce que tu as demandé des conseils à droite à gauche? Comment
en fait,
ça s'est fait justement?
Je l'ai fait un peu de manière inconsciente parce que je savais pas du tout comment marchait le milieu de l'humour et
ouais.
le milieu du stand-up. Donc en fait, je l'ai fait comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire
d'accord.
qu'on l'a écrit d'un bloc,
d'accord.
en travaillant beaucoup. On a travaillé quasiment un an le texte.
Ouais.
Ensuite, quand même, pour voir un peu ce que c'était que le rythme et ce que c'est qu'être derrière un micro et de faire rire, parce que c'est vraiment un autre métier que comédien, même de théâtre. On a fait 3-4 comédie club scène ouverte,
d'accord.
pas plus, et tout de suite on a passé les essais dans la Petite Loge,
d'accord.
qui est un super théâtre pour faire ses armes, qui est à Saint-Georges, de 25 places.
Ah ouais.
Ouais. Et c'est là qu'on a rodé. Donc comme une pièce de théâtre, on l'a rodé avec 25 personnes tous les soirs. On a eu la chance d'être complet pendant 5 mois d'affilée.
Ah ouais, j'ai demandé pendant combien de temps?
Ouais,
ouais, 5
incroyable, 5 mois, on avait 2 mois et demi d'avance sur les résas,
okay.
c'était incroyable. Et donc c'est là que j'ai fait mes armes. C'était tous les mercredis à 21h, et, mais en huis clos, on n'invitait pas la presse,
ouais.
on n'invitait pas les producteurs, c'était vraiment pour moi apprendre en fait,
voir,
pour muscler la pièce, pour voir là où ça marchait moins, ce qu'il
ouais.
fallait modifier. Et donc ça a été la première étape de travail, on a trouvé une productrice, Émilie Quindinis, dans cette étape-là. Et ensuite, elle a décidé à partir d'octobre de cette année de nous faire jouer au Marais deux fois par semaine. Donc là, c'est un peu la grosse machine qui s'emballe. Mais on est toujours dans une phase de travail.
Ouais,
on l'exploite longtemps en fait, un premier spectacle. Bah, le temps qu'on se fasse connaître, si on arrive à se faire connaître un jour. Et c'est ouais, c'est 5-6 ans quoi, ça peut. C'est
assez
long.
Familiariser toi aussi avec.
Ouais, ouais, moi je vois,
marche,
ça va.
Plus,
j'ai commencé donc vraiment en octobre. Donc là, ça va faire quoi 5-6 mois,
ouais.
et je suis encore en train de me dire waouh, il y a des nouveaux trucs, on a changé encore plein de choses,
ouais.
et du coup je me dis ouais, c'est vraiment au bout d'un an en fait, ou en tout cas pour nous on fige, enfin on fige jamais vraiment, mais en tout cas je vais me dire ok, là on peut envoyer les chevaux,
ouais. là,
je suis à l'aise.
Ouais, là t'as,
ouais, ouais.
t'as déjà sécurisé certaines blagues du coup,
ouais.
Celle-là elle change pas quoi.
Là il reste 10%, mais c'est 10%,
okay.
Tu sais comme quand t'as... Je vois un peu ça comme un sculpteur où tu
ouais.
dégrossis au burin et après il faut aller au détail, faire ce qui fera vraiment le côté sublime de l'œuvre.
Ouais.
C'est vraiment le petit détail du drapé, de comment retombe le voile. Voilà. C'est une métaphore comme une autre. Hein.
Qui sera peut-être dans le spectacle.
Je sais pas, si ça mérite la postérité.
Et du coup, là t'es sur scène au Théâtre du Marais.
Oui.
Et est-ce que je me demandais, donc toutes ces choses-là très personnelles que tu racontes qui étaient dures, tu disais à écrire et sur lequel tu as rajouté de l'humour. Est-ce que encore aujourd'hui, parfois quand tu les dis à l'oral, parfois tu as des petites choses qui tu dis waouh, je suis en train de raconter ça, c'est très personnel. Peut-être la toute première fois où tu as raconté ça sur scène, tu devais un peu avoir un peu de mal peut-être à les dire ou pas forcément?
Moi je le vis un peu à la fin du spectacle comme un espèce de rouleau compresseur,
ouais.
parce que ça
épuisé,
me
épuisé,
ouais, parce que ça remue,
ouais.
en fait. Mais pas de manière négative, juste
ouais.
c'est un fait, ça remue, ça me fait revivre plein de scènes et tout. Et... Mais je trouve que c'est nécessaire aussi parce que j'ai tellement souffert du harcèlement scolaire que j'ose espérer que c'est devenu de plus en plus quand même un sujet national
ouais.
avec des campagnes de prévention, la parole se libère vachement par rapport à ça, notamment dans la cour du collège et de la primaire. Et j'ai envie d'apporter ma petite pierre pour dire que de un, on s'en sort et qu'il y a des belles choses qui nous attendent en dehors. Et de deux, que c'est il faut vraiment y faire attention quand on est parent. C'est pas juste la cour de récré, oui, bon, les gamins, c'est un peu violent, mais il faut que jeunesse se passe. Non, il faut vraiment qu'on soit vigilant là-dessus. C'était une des motivations après la filiation pour faire pour monter sur scène. Ouais.
Ouais, c'est vrai, t'en parles beaucoup dans ce spectacle et quand tu dis, j'ai l'impression qu'on est en train d'en prendre conscience, même s'il y a encore des éléments
horreurs,
dramatiques hein, comme le petit
Lucas,
exactement.
Ouais,
ouais. Et là, ils vont faire des lois dessus, donc j'imagine que ça aide
bien,
ce
ça
genre de spectacle.
En tout cas, plus la parole se libère et plus les personnes qui ont vécu du harcèlement en parlent, parce
ouais.
que déjà, c'est tout un cheminement hein, pour
ouais.
arriver à en parler,
ouais, ouais.
pour arriver à en prendre conscience aussi que ça n'a pas été normal ce qu'on a vécu.
Ouais.
Et ça passe aussi par tout ce qui est bizutage et tout ça, quoi. On en revient vachement, mais je trouve ça bien, on va dans le bon sens. Avec plus de bienveillance en fait, tout simplement.
Toi, c'était par rapport à ton homosexualité, tu
ouais,
te faisais harceler au collège?
Oui, j'étais trop efféminé, j'avais pas les bonnes manières, les bons gestes, je traînais qu'avec des filles. Et du coup, mais ce que je dis dans le spectacle, c'est que je pense que chaque personne est et harcelé, mais il suffit juste d'être, de pas rentrer dans la norme en fait, et d'être un peu en marge. Si t'es un peu gros, si t'es roux, si t'es pédé, si t'es lesbienne, tout simplement. Enfin, en fait, tout est prétexte à ce que la meute te dévore parce que t'es le loup boiteux, quoi, en fait, tout simplement.
Et donc ce spectacle, est-ce que tu crois que il est ouvert à tous les types de public? Est-ce que tu as l'impression que justement, vu que tu parles de toutes ces thématiques-là très larges, tu as envie que tous les types de public viennent?
Bien sûr.
Parce que tu fais aussi des blagues très crues sur tes relations et des choses comme ça. Donc est-ce que parfois tu te dis, mince, est-ce que je vais trop loin ou est-ce que...
Alors je ne me dis pas ça.
Non, jamais tu ne sens pas dans...
Non. Non, et je laisse le public décider. Et puis s'il trouve que je vais trop loin, bon bah il reviendra pas. Non, parce que je trouve que je vais pas trop loin.
Non.
Mais peut-être hein, que certaines,
non,
ça
non,
dépend
non.
de la sensibilité
non,
en fait de chacun.
Bon
bah tant mieux, tant mieux. Et non, pas du tout. Moi j'ai envie de parler au plus de gens possible et surtout aux gens en dehors de ma communauté parce que je trouve qu'on fait changer les mentalités en s'adressant à des gens qui sont pas conquis. À des gens qui ont besoin de faire un chemin pour arriver là où on est. Et puis c'est plus intéressant de rencontrer des gens qui pensent pas comme nous et qui en sortant du spectacle auront peut-être un peu réfléchi, se seront peut-être un peu remis en question dans leur comportement ou dans leur façon de voir le monde et auront peut-être, j'espère, distiller à la fin du spectacle un peu plus d'humanité, un peu plus de bienveillance. Mais ça c'est vraiment personnel, je sais pas si à la fin on ressort de ça, ça se trouve on dit c'était vraiment de la merde. Mais en tout cas j'aurais essayé à mon petit niveau.
Non, moi quand j'en suis ressorti, j'étais mort de rire tout le spectacle.
Bon, bah, tant mieux,
et d'ailleurs, dans la salle, quand j'y étais, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient morts de rire et des adultes. Et on s'est demandé justement si c'était pas ta famille qui était présente ce soir-là
non,
avec ma pote.
Pas du tout. Bon, merci de la confiance en tout cas. Je suis capable de fédérer d'autres personnes que ma famille. Mais non, pas du tout. C'est assez surprenant. J'ai un public encore hier. Il y avait au moins 15 personnes, une salle de 100 places, il y avait au moins 15-20 personnes qui avaient plus de 65 ans.
Ouais.
Alors je sais pas comment ils connaissent le spectacle.
D'où le bouche à oreille se fait.
Le bouche à oreille se fait. En tout cas, c'est génial. Et puis ils sont hilars. Alors pas tous, il y en a des fois franchement qui me regardent, je suis en train de me dire, ouais, ils vont mourir en fait. Et il y en a qui rigolent. Et sur les plus grosses vannes de cul, t'as des petites mamies, elles sont hilares. Ça me fait trop rire.
Et dans ton spectacle, du coup, c'est très écrit, mais je crois que tu fais un peu d'impro aussi, parce que
le soir où j'y étais,
répétais déjà, tu dis, bon, ben là, je suis vraiment totalement en impro, je me rappelle,
tu étais.
Oui, tu disais,
je suis en roue libre, souvent.
Et exactement ce que tu disais, je dois le rattraper, je me rappelle,
pas,
tu disais.
En fait, c'est difficile quand je veux me lâcher de plus en plus, donc je lâche le texte de plus en plus. Donc j'ai des périodes, enfin des passages un peu improvisés, mais que je choisis pas, qui sont vraiment tout le temps comme ça, qui viennent à l'improviste. Et c'est vrai qu'après, j'ai du mal à retomber sur mes pattes parce que je pars tellement loin. Je suis en mode, waouh, où est-ce que j'en suis? Des fois, je regarde mon texte. Mais les gens, ils aiment bien parce que c'est du spectacle vivant. On se laisse... Franchement, si tout est cadré, et ça, j'essaye d'en sortir de plus en plus, on se fait chier au bout d'un moment. Il faut réussir à sortir et avoir de l'imprévu. C'est aussi ça que les gens viennent voir. Sinon, ils vont au cinéma ou devant Netflix. Mais je crois que quand on vient voir un spectacle vivant, bah, on vient voir un humain. Et un humain, y a des défauts et c'est perfectible. Donc, c'est intéressant de voir ça, de voir le défaut, de voir la faille. D'ailleurs, c'est là où il y a le plus gros rire. Hein. Les gens, ils viennent te voir foirer. Hein. Ils viennent pas voir un beau texte, on a rien à foutre. Les gens, j'ai jamais eu d'aussi gros rire que quand je raconte n'importe quoi et qu'ils savent très bien que je ne sais pas où j'en suis.
Oui, mais c'est pas parce que tu...
Simplement.
Non, c'est pas parce que tu te plantes, c'est parce que c'est drôle.
Bien sûr que
c'est ce qu'il faut se dire.
La nature humaine est perverse. Écoute-moi bien.
C'est ça, je vais le donner. Ouais, tu continues du coup un peu l'impro dans les nouvelles.
Parfois, je vais pas faire d'impro parce que le public m'a rien donné et du coup, je vais pas créer une impro. Je la crée pas ex nihilo, tu vois. Mais par contre, quand il y a une personnalité un peu forte dans le public qui se fait remarquer ou qu'il se passe des trucs, des bruits, des machins, parce que le théâtre du Marais est clairement hanté. Je te jure, quand c'est pas la chaudière, c'est un projecteur qui menace de lâcher ou c'est quelqu'un qui hurle dans la rue et on entend tout.
Oui,
et du coup, ça, je m'en sers.
Je
m'en sers. Ou même moi, quand je bafouille, quand je dis clairement pas du tout le texte que genre, j'invente, je suis en mode waouh, je sais pas du tout ce que. Donc ça, j'en joue. Mais ça dépend vachement de ce que le public donne aussi.
C'est marrant,
et quand
si
on est en confiance,
si t'entends un truc, tu te dis tiens.
Quand le public rigole pas.
Tu peux créer quelque chose quoi.
Bah oui, En fait, le spectacle vivant, je trouve que plus le public te donne, plus toi tu te sens libre, t'es en confiance, et du coup plus t'es à ton meilleur et plus t'es en mode bon bah je leur fais confiance, ils me font confiance, je leur fais confiance, je peux lâcher la rampe. Mais quand je le sens pas, je le fais pas. Je reste un peu dans mes clous, plus ou moins. Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui ont vu le spectacle 3-4 fois.
Ah oui.
Parce que je les paye, évidemment.
Ah oui, je veux dire, fan hardcore.
Je sais pas, mais en tout cas, qu'on m'aimait. Et ils m'ont dit, oh, c'est fou, c'est jamais le même spectacle.
Ah, ça, c'est chouette.
Et ça, c'est ça, je suis content, ouais. Ça, je suis très content.
Ouais, parce que du coup, c'est intéressant. Tu dis, bon, ben là, au moins, ils sont pas chiés 4 fois à voir le même spectacle. S'ils amènent leur enfant, leurs parents, leurs.
C'est exactement ça.
Ça, ils amènent
souvent
des membres de leur famille.
Des membres de leur famille, leur mère. Plein de gens de 20 à 25 ans amènent leurs parents de 55-60, et c'est comme ça qu'après je me retrouve avec des quinquas dans ma salle.
Et t'es gêné de qu'est-ce que je peux dire là ce soir?
Non, j'aime bien, franchement. Pour le coup, j'adapte pas du tout mon texte en fonction de la salle. Non, je leur livre la même chose, ce que j'ai à dire. Je change pas en fonction de mon public.
Et tes parents sont déjà venus te voir du coup sur scène?
Ouais, plein de fois.
Et là, c'est plus gênant ces moments-là ou...
Je suis plus stressé.
Un peu plus stressé.
Parce que j'ai envie qu'ils soient fiers et j'ai envie de ne pas me tromper. J'ai envie que la salle soit remplie. Du coup, j'ai une pression. Franchement, ils sont géniaux. Hein. Et mon père est en larmes à chaque fois. C'est quand même une déclaration d'amour à mon père, hein, ce spectacle. Et ma mère est toujours un peu « tu parles pas beaucoup de moi ». C'est mignon.
Les parents.
Ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est chouette d'avoir le soutien de ses parents. C'est ce que je raconte. Enfin, c'est chouette à la fois dans le coming out et dans le soutien dans la vie de tous les jours et dans les projets professionnels. C'est vraiment une force. Moi, j'ai eu une famille, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, très aimante. Quand bien même elle n'est pas traditionnelle, tu vois.
Ouais. Puis surtout dans
beaucoup
ce milieu-là, j'imagine, où du coup, si t'as pas des gens derrière qui s'accrochent avec toi, ça peut facilement,
c'est dur,
j'imagine.
Hein, c'est un milieu dur, la compétition est rude, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de gens ont beaucoup de talent. Et du coup, de se faire sa place, c'est très dur. Financièrement, premièrement, de vivre à Paris de petit projet en petit projet. Donc, si on n'a pas un soutien familial faille et de l'amour et de la confiance et qui nous porte, on peut vite abandonner.
Mm-hmm. Ouais. Et justement, du coup, ce spectacle, donc, c'est ton tout premier seul en scène que tu joues depuis, du coup, on peut dire presque un an et demi si on prend ton rodage.
Un an, parce que si on prend mon rodage, j'ai commencé en février-mars.
Ah ouais, donc là, ça fait
un an. Si on compte
le
rodage, c'est un an. Et si on compte juste le début de l'exploitation au marais.
Ça fait 7-8 mois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et justement, on a parfois un peu honte de ces premières fois dans tous les domaines, que ce soit sexuel, sentimental ou voilà. Qu'est-ce que toi, tu ressens avec cette première fois au théâtre? Est-ce que. Quand tu te souviens des premiers rodages, tu te dis qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que c'était, ou est-ce que tu es plutôt fier d'avoir commencé avec ce spectacle et de encore le jouer? Comment tu le vois comment tu la vois cette première
fois? Moi, en tout cas, je suis très fier de ce premier spectacle parce que il est vrai et honnête. J'ai pas joué à un jeu Marapuce. J'ai pas été dans l'hypocrisie en fait. Et non, sérieusement, enfin, je trouve que vraiment. En tout cas, j'ai mis toutes mes cartes sur la table. J'ai pas
menti. Là, t'as pour rien à raconter, là, sur ta vie, du coup.
J'ai gardé un peu de... J'en ai gardé sous la pédale, c'est le cas de le dire. Et je crois qu'en tout cas, je me suis livré de la manière la plus franche et honnête possible, sans artifice. Tu vois, même dans la mise en scène, on fait pas de grands gestes, on se déplace pas, il y a pas un décor qui prend toute la place ou une musique.
Il y a une couleur verte qui est un peu présente.
Oui, bon, il y a peut-être une couleur verte sur laquelle j'ai fait une fixette.
Mais aujourd'hui, tu t'habilles en rouge, donc du coup, je suis un peu déçu. Je pensais que ce serait.
En fait, c'était pas filmé, du coup, je me suis dit, mais ok, tu me balances, très bien, je vois très bien, ok. J'avoue, la couleur verte, en fait, au début, c'est parti de juste pour l'affiche, et, parce qu'on avait un mur vert à la maison avec mon ex, et c'est sur ce fond vert qu'on a fait la première version de l'affiche. Et ensuite, je suis parti dans un délire, et plus personne ne m'a arrêté. C'est-à-dire que dans l'affiche verte, je suis parti à maintenant toutes les promos, il faudrait que je les fasse en verte. Mais attends, le décor, on va le faire en vert, le costume va être en vert.
Le téléphone est vert aussi, je crois.
Le téléphone, tout est vert. J'ai complètement lâché la rampe. Et maintenant, du coup, je me retrouve pris dans mon propre jeu de devoir tout le temps être en vert. Et là, j'avoue, c'était pas filmé. Je me suis
dit, je peux mettre
du rouge.
Pas de pression aujourd'hui. Le téléphone
mon
est
téléphone
vert.
Est vert.
Mais toujours cette même teinte un peu vert.
Ouais, c'est vert d'eau, lichen chez Faro Ball. ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'on racontait? Tu vois, c'est ça, dans c'est... le spectacle.
Exactement.
Je fais ça, je pars, et après, je sais plus où j'en suis.
Mais là, tu vois, là, c'est mon rôle, du coup, de reprendre. Là, t'es pas tout seul, mais. Non, mais c'est, tu disais, en fait, ouais, que t'as pas honte de ta première fois.
Non.
Parce que t'as dit tout ce que tu voulais dire, très personnel.
J'ai pas honte, parce que aujourd'hui, je regarde ma première fois au théâtre avec beaucoup de bienveillance et tout le travail accompli depuis là. Forcément, je me dis, ah ouais, moi, j'étais persuadé d'avoir accouché d'un spectacle génial. Bon, bah, je regarde la première fois, je me dis, ouais, c'était bien de la merde.
Donc,
je suis. J'ai une metteuse en scène qui me fait des retours. Donc, elle est très cash et elle est très contente du travail qu'on a fait et de là où on est aujourd'hui. Et donc, je suis très content d'avoir évolué, d'avoir un spectacle qui est chouette et qui est aujourd'hui qui me ressemble encore plus. Parce que au début, j'étais un peu monté sur scène avec un masque social qu'on a tous et on veut être intelligent, on veut que les gens nous aiment, puis on veut être drôle. Puis du coup, et en fait, on n'est pas vraiment nous-mêmes parce qu'on a peur que les gens nous aiment pas. Mmh. Et au moins, s'ils aiment pas le spectacle quand on n'est pas vraiment nous-mêmes, c'est pas grave. Mais s'ils aiment pas le spectacle alors qu'on est complètement nous-mêmes, ça fait mal.
C'est un peu plus dur.
Et de plus en plus, je lâche la prise, j'enlève les différentes couches de mon armure. Qui est une armure en fait qu'on se construit à l'adolescence quand on nous harcèle ou quand les gens se construisent face à la vie, qui fait qu'on veut être moins atteint par les attaques, donc on se construit des masques sociaux. Et en fait, je crois que le rôle principal de l'humoriste, et encore plus dans le stand-up, c'est d'arriver le plus vrai sans artifice. Et je crois que c'est ça qui prend le plus de temps. Et c'est ce travail-là qu'on est en train petit à petit d'éplucher. Et donc je suis content aujourd'hui.
J'ai l'impression d'être de plus en plus toi-même sur scène en fait.
Ouais, de plus en plus c'est ok que je sois moi-même. C'est pour ça que je pars en live et que je lâche la rampe sur plein de trucs et que c'est cru de temps en temps.
En parlant d'être toi-même, là, cet épisode va être un peu dans un ensemble de grands épisodes pour le mois des fiertés.
Ouais.
Et du coup, tu parles justement de ton homosexualité sur scène.
Ouais.
Tu sais que c'était important pour toi de parler de filiation et du harcèlement, mais du coup, tu parles aussi beaucoup forcément
Alors,
parce que c'est lié au harcèlement aussi, l'homosexualité.
L'homosexualité, c'est uniquement pour vendre des tickets. Ça, c'est, je suis complètement hétéro, ça me dégoûte même, ces actes contre nature. Non, évidemment. C'était important pour moi de parler de l'homosexualité, mais de ne pas en faire un sujet. Je sais pas si dans le spectacle, il n'y a aucun moment où je dis voilà, je suis gay. Non, on le comprend évidemment.
Oui, ça l'est comme une autre partie de toi.
Ça l'est comme l'hétérosexualité peut l'être dans un spectacle. Tu vois, quand les gens ils nous parlent de leur premier date, de leur meuf, je parle par elle, sauf que c'est mon mec et puis c'était des relations homo. Mais je prends un peu le contre-pied de ça. Et en tout cas, évidemment, j'en parle à travers le harcèlement parce que l'on m'a harcelé parce que j'étais homo. Mais si j'avais été gros, encore une fois, on m'aurait harcelé pour ça.
Sûr.
Et si j'avais été trop maigre, on m'aurait harcelé pour ça aussi. Donc c'est aussi. C'est ça que j'aime à la sortie du spectacle quand des personnes m'attendent. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive quelquefois. Et ils me disent alors moi, je suis pas homo, mais j'ai été aussi harcelé, je me suis retrouvé dans ton discours. Ça, je suis trop heureux. Quand les gens ont pas mon vécu, mais qu'ils se retrouvent dans ce que je peux dire, ça, je me dis ah ben, t'es pas monté sur scène pour rien ce soir.
Mais c'est important pour toi de pas cacher notamment ton homosexualité. Ça, je lui demandais est-ce que t'as l'impression qu'on manque justement d'humoristes ou d'acteurs LGBT et out et
moi,
proud
que déjà on a besoin de plus en plus de représentation.
On
a besoin de modèles. Moi j'aurais adoré grandir avec des séries hyper queer, avec des modèles hyper queer, et on n'en avait pas dans les années 90 très très peu quoi. Stevie du Loft ce qui était déjà bien en soi, c'était une pierre à l'édifice, mais c'était de la télé-réalité et puis c'était il fallait qu'on avance quoi, et puis il fallait plus, il fallait le normaliser. Et je trouve qu'aujourd'hui on a besoin de normalisation et de représentation, et ça passe par des prises de parole de gens plus ou moins connus, plus ou moins artistes, qui revendiquent ou pas, mais juste qui sont là et qui se cachent pas d'être homo, d'être bi, d'être transsexuel. Et je crois que le combat, quand tout le monde convergera dans ce combat-là, les féministes, les homos, les trans, les gouines, on pourra être visible de tous, unis, et on pourra ne plus être en dehors de la norme. Et je crois que c'est ça, mais après, c'est pas mon combat particulier. Chacun avance, c'est compliqué un coming out. Je sais qu'il y a plein d'acteurs, plein d'humoristes qui peut-être sont homo, peut-être sont bi et osent pas faire leur coming out, et c'est aussi ok. Chacun doit avancer à son rythme. Moi, j'estime que c'est juste ma part du taf de dire oui, je suis gay, j'en fais pas un drapeau, mais j'en fais pas non plus une honte. Et si on me posait la question, je dis je suce des bites, et voilà. Et on devrait tous sucer des bites, et je peux vous dire qu'il y aurait moins de guerre dans le monde.
Ouais, ça c'est sûr.
Une bien belle devise.
Pour le spectacle, pour l'affiche.
Le titre du prochain spectacle, je pense.
Justement, j'allais dire, c'est quoi la suite?
Si mes attachés de presse entendaient ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. Je me reprends. Donc, la suite, c'est juste faire vivre ce spectacle. Peut-être partir en tournée. J'ai la chance de faire au théâtre de la Renaissance. Pour la Pride, un stand-up qui sera capté pour Canal+. Également, je suis à la Nouvelle Scène pour un show pour Canal aussi, où je ferai 10 minutes avec d'autres artistes. C'est organisé par Jessie Varin sur la péniche de la Nouvelle Scène. J'ai roté parce que j'ai mangé un burger et je sais pas si on l'a entendu.
J'allais
laisser passer, mais tu sais, le stand-up, c'est bien, c'est admettre et savoir que le public voit tout. Donc voilà. C'est avancer, c'est faire vivre le spectacle, le faire connaître le de plus
et
possible.
Partir en tournée en France, ça c'est prévu, je crois.
Ouais, c'est prévu au printemps. On l'a pas encore annoncé, mais c'est prévu au printemps 2024.
D'accord.
Voilà. Et là, à la rentrée, je recommence au Théâtre du Marais, les jeudis et vendredis à 19h30. Et là, je suis au Théâtre du Marais, c'est les jeudis et vendredis à 21h.
Ah ouais, donc tu passes le créneau un peu au-dessus, quoi.
C'est pareil. C'est juste que l'été, c'est mieux faire 21h parce que les gens sont en terrasse, ils ont envie de picoler avant, ce que je peux complètement comprendre. Et en hiver, c'est bien, les gens ont envie de rentrer tôt chez eux, donc du coup, 19h30, c'est bien. Donc voilà.
Ben on ira te voir du coup, revoir au Théâtre du Marais.
J'espère, avec plaisir.
Merci, je sais.
C'était trop cool, merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Toute Première Fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.